Bonjour, soyez les bienvenus, c'est la bande originale avec Leïla Kadhoubouladi, Nora Mzaoui, Daniel Morin, Tom Villa, et Charles Maquette au clavier, et notre invité Marc Véran. Marc, soyez le bienvenu malgré la neige qui a envahi et peut-être bloqué la circulation, non ?
Oui, en tous les cas, bonjour. Ben, heureusement qu'elle est arrivée parce qu'on n'a pas eu de neige à Noël, pas eu de neige au Nouvel An. Hein.
Et donc là, vous en aurez pour février.
Et là, on en aura pour février. Parfait. Les vacances sont belles. Je peux vous garantir qu'on va se préparer 2 mois de neige extraordinaire.
Et vous en aurez jusqu'à mi-mai.
Oui, vous pouvez venir, vous pouvez venir.
Il est météorologue en plus, c'est formidable, c'est formidable. J'ai peur, Tom, que quoi vous n'ayez pas compris pourquoi on a invité Marc.
Mais si, pour aller bouffer gratos dans son resto après. On la connaît, la technique. Hein. Notre invité de ce matin, les cheveux longs, les grands espaces et les herbes. Non, ce n'est pas Florent Pagny. Bonjour Marc Véran.
Bonjour.
Alors, où dois-je vous appeler chef, peut-être d'ailleurs, non ?
Oui.
C'est votre métier quand même.
Bah ouais, c'est un peu le clivage militaire de la cuisine. Hein.
Non, parce que je sais que ça rigole pas trop. Ça rigole pas trop avec ces trucs-là. Voilà. Tu vois, j'ai regardé Top Chef la semaine dernière et Chebest, il met des tatanes dans la gueule pour moins que ça. Donc c'est pour ça, je veux pas de soucis.
Tu peux t'en prendre une surtout.
Marc Véran, l'homme au chapeau à mi-chemin entre Pharrell Williams et Geneviève de Fontenay. Alors vous êtes avec nous ce matin pour nous préparer le petit déjeuner.
Non, c'est pas ça.
Pour nous parler de la réouverture de votre restaurant, la Maison des Bois. Ouais. Voilà. Attends, on dirait le titre d'un film d'horreur. Manque plus Christophe au fond de latte et là on est au complet là. Pourquoi Marc Véran, chef cuisinier étoilé au Michelin, entrepreneur français, ceinture jaune de judo et amateur de chapeaux en feutrine, pourquoi a-t-il réouvert la Maison des Bois ? La Maison des Bois, vous y rentrez pour manger, vous en ressortirez en morceaux.
Bah non.
Si.
Bah non.
Mais si. Non, mais la Maison des Bois, c'est votre restaurant au col de la Croix Frie, c'est ça ? Au col de la Croix de Frie ?
Frie, oui.
D'accord, voilà, station de ski que je connais très bien, puisque je m'y suis cassé le bras quand j'avais 10 ans. Non, je vous jure que l'anecdote est vraie en plus.
En plus, c'est vrai.
Je sais pas comment est votre resto, mais j'espère qu'il est mieux entretenu que les télésièges. Et
sur le télésiège ou sur la piste ?
Non, c'était sur le télésiège. Bon, bref, bon, pas grave.
Tu t'es pété le bras sur le télésiège ?
Oui, ça peut arriver.
Voilà,
une chute malencontreuse. Un ski qui se coince, c'était il y a trop longtemps.
Accident.
Voilà, très belle région en tout cas.
Même quand on en parle là maintenant, t'as mal au bras.
J'ai mal au bras, tu vois. J'ai mal à mon fémur. Très belle région
c'est
que...
C'est pas au même endroit.
Ah bon ? C'est pas vers la... Entre le coude et la nuque. Bon bref. Très belle région que la Haute-Savoie d'ailleurs. À ne surtout pas confondre avec la Savoie parce que c'est pas pareil. Voilà. Si Cabrel avait chanté « J'irai dormir chez la dame de Savoie », la chanson était toute pourrie. Non, c'est pas pareil. Déjà là-bas, entre vallées, ils se foutent sur la gueule. Alors si on met en compète les départements, c'est la guerre directe. Bon, c'est la guerre à coups de tartiflette et de tomes de Savoie, mais c'est la guerre quand même. Non, mais quand tu rentres dans un resto là-bas et que t'as tes boots qui te servent que 2 fois par an et ta polaire rose, t'as l'impression de rentrer dans un saloon avec un mec qui te regarde de l'air de « on n'aime pas bien les étrangers ici ». C'est vrai, il y a toujours ce sentiment un peu bizarre à la montagne. La caractéristique de la Maison des Bois, c'est qu'elle est en bois. Ouais. Merci Nagui. Voilà. Non, c'est surtout ça.
Mais j'ai rien dit moi. Si tu m'accuses de cette fête pourrie.
Mais si, vous me l'avez dit. C'est un restaurant éco-biologique. C'est ça.
Voilà.
Ouais. C'est, là, ça devient intéressant.
Voilà. C'est juste un joli mot pour dire que vous n'avez pas l'eau courante et que par conséquent, il y a des toilettes sèches. Un restaurant éco-biologique en pleine montagne. Et voilà, tu sors ta cuisine, tu vas cueillir 3 baies, 2 fougères, 1/2 buisson, tu vas buter un chamois, voilà. Par contre, ça c'est...
Et vous allez venir avec nous, vous allez
avec grand plaisir.
Vous allez être beaucoup plus fatigué. Hein.
Non, mais vous voulez que je vous dise un vrai exploit, Marc ?
Ouais,
aller chez Métro un lundi matin sans tuer personne, ça c'est un vrai exploit. Voilà. Ouais, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui.
C'est bien un gros problème, d'ailleurs.
Mais si vous aimez les chamois au reblochon, les tire-fesses et la grande gastronomie française, surtout, courez voir Marc Véran.
Merci à vous. Nagui, la bande originale.
2 fois 3 étoiles au guide Michelin, 2 fois 20/20 au Goemio, ça calme si...
Comme quoi c'est utile les notes.
Si vos parents avaient des doutes sur votre réussite quand vous étiez petit, là vous pouvez être fier en tout cas du parcours que vous venez de faire. Et il n'est pas fini ce parcours, il reprend même avec cette Maison des Bois reconstruite pratiquement à l'identique. Parce qu'on se souvient il y a quoi maintenant 2 ans pratiquement que vous avez été victime d'un incendie.
Mais j'ai eu un parcours terrible. En 2006, vous savez que je me suis fracassé dans un pylône. J'ai eu un accident de ski, je suis resté paralysé pendant 1 an. Après, mon restaurant Annecy a pris feu, entièrement, dévasté. On me remet debout grâce au professeur Saillant à Paris, qui a fait un boulot extraordinaire, et professeur Chamba. Puisque je suis à nouveau debout, donc je suis plein de vigueur, Donc je monte la maison des bois sur le terrain de mes parents. Je veux que la boucle soit bouclée. Non, mais je vais vivre en autarcie.
Elle brûle encore cette maison.
Et cette maison à nouveau brûle.
C'est un chat noir en fait. Pourquoi vous êtes venu? Qui c'est que tu lui as dit de venir? Vous êtes fou ou quoi? Justement, on s'en rappelle nos travaux, nous, on est des incendies.
Et en fait, on a terminé les travaux il y a 3 mois, quoi, à peu près, il y a 3-4 mois, avec un espace extraordinaire. On a créé à l'intérieur la fondation, avec un...
Qui, elle, sera lancée au mois de mai, hein, c'est ça?
Elle sera lancée au mois de mai. On a une fondation qui lutte contre la malbouffe, il y a du travail, hein.
Ah ouais, et vous avez refait à l'identique ou pas?
Non, on l'a beaucoup plus agrandi. On a incorporé la fondation dedans, les classes pour les cours de cuisine, parce qu'on reçoit les enfants entre 8 et 12 ans pour les initier à la nourriture.
Vous avez entendu toutes les mauvaises langues qui disent que cet incendie n'est pas un vrai incendie, que c'était faire marcher les assurances et tout ça. Oui.
Et ça c'est extraordinaire que pourquoi autant d'ignorance? Pourtant, moi qui suis un paysan, hein, du sommet de la montagne, vous savez qu'on a quand même, pour justifier un incendie sur un lieu public, comment on a la criminelle qui vient, vous le savez, ça.
Non, non, je sais pas.
Bah oui, ils viennent faire une expertise. Ils sont restés 2 jours à 3 personnes. Et j'ai su d'où avait démarré l'incendie. Mais vous croyez que l'assurance va vous rembourser parce que vous avez vidé un bidon d'essence, c'est fini, ça, hein. Ce temps-là, c'est terminé, hein. Ça ne peut plus marcher.
T'as compris, Morin?
Voilà.
Tu pourras pas faire ça.
Ça, c'était pour les
bonnes choses. Quelque chose pour faire le plein, parce que là, j'ai des bidons qui servent à rien. Donc.
La Fiat Punto, elle est au garage.
Votre philosophie, que ce soit d'ailleurs dans vos recettes ou dans cette maison des bois, c'est de vous appuyer sur le naturel, l'authentique et en même temps, de faire avancer les traditions vers une modernité.
Tout à fait. Je pense que la créativité, moi, je crois que, en tous les cas, l'homme le plus créateur sur la terre, que ce soit en dessin, en cuisine, s'il ne croit pas à quelque part une tradition, s'il ne s'assied pas sur une tradition, c'est les fondations. Après, il fait l'élévation avec la création. Mais la tradition, elle doit rester, elle doit être en place. Mais ce qui est formidable dans notre démarche, c'est que on travaille la botanique, on est associé avec François Couplan, qui est un des plus grands botanistes du monde. J'ai pas mal de soutien, dont le professeur Kayat à Paris. On a des soutiens autour de nous.
Quand vous parlez des médecins, c'est pourquoi? C'est pour parler des bienfaits de la nature.
Mais oui, les bienfaits de la nature.
Mais ça va, vous énervez pas, je pose une question.
Ce qui m'énerve, c'est l'avènement du packaging. Vous savez, il faut pas avoir fait HEC, c'est tout simple.
Ça tombe bien, personne qui a fait des études.
L'avènement du packaging, c'est les années 95. Qu'est-ce qui se passe, le packaging?
Quand
vous mettez quelque chose sur packaging, il faut bien qu'il y ait un conservateur.
C'est des natures.
Il faut bien. Attendez, votre jus d'orange, il faut bien le conserver un mois. Quand vous ouvrez votre bouteille de lait, vous l'ouvrez pendant 15 jours. Quand vous faites une orange pressée, vous la mettez au réfrigérateur 3 jours après, vous ne pouvez plus l'utiliser, c'est les fraîches. Alors, posons-nous les bonnes questions. Quand vous faites du pain de mie, c'est pas compliqué. Vous mettez des œufs, de la farine, de la levure, etc. C'est tout bête à faire. Vous le faites lever, vous le mettez au four. 4 jours après, vous ne pouvez plus le consommer. Eh bien, allez dans les grandes surfaces. Vous pouvez le consommer pendant 2 mois. Regardez au dos, puis regardez les notices, c'est pas compliqué.
Donc vous dites,
vous allez voir, c'est très bon pour la santé tout ce qu'il y a.
Alors vous dites, on bouffe de la merde, c'est ça,
J'ai pas dit qu'on bouffait que de la merde, parce qu'on a aussi besoin des grandes surfaces qui commencent à se remettre en cause avec des produits de région. Et
que le bio coûte cher, plus cher que les autres produits.
Ouais, mais Nagui, je suis d'accord avec vous, mais il y a une chose qui m'horripile, c'est que on ne veut pas regarder les choses en face. Mais effectivement, ça coûte cher le bio. Mais quand vous achetez de la viande qui est sous vide, qui est piquée avec tout ce qu'on sait, n'est-ce pas, les antibiotiques qu'il ne faut pas consommer. Mais aujourd'hui, vous avez des fours électriques. Vous partez au travail, vous mettez votre four électrique 6 heures. Vous faites suer 2 échalotes pour 2 minutes. Vous mettez vos lentilles, vos pois chiches, vos pois cassés. Vous faites une grosse terrine pour la semaine. Vous en utilisez la moitié avec votre famille. Vous mettez l'autre moitié dans un bocal au réfrigérateur. Ça fait 2 plats. Vous l'avez réalisé en 1/4 d'heure. Et vous êtes bourré de protéines.
Oui, mais
et ça coûte 10 fois moins cher.
C'est un savoir-faire aussi. Tout le monde n'est pas encore. Ah, mais si, je suis désolé.
C'est tout bête à faire. Mais
justement,
c'est là où les chefs.
Quelqu'un explique.
Mais c'est là où les chefs. Mais vous avez raison.
Oui.
C'est là où les chefs, à mon avis, ont une mission aujourd'hui. Forte, impérative.
Éduquer.
C'est éduquer. Et les gens n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. On vit dans un monde de fous. Donc il faut faire des recettes faciles, courtes, et éduquer les gens et leur dire, n'oubliez pas une chose. C'est que la nature, vous savez, c'est votre carburant, la nature. La nature, elle est spirituelle. Est-ce que les gens vont arriver à comprendre ça? Ça sort de la terre, ça monte vers le ciel. on en prend soin. Et moi, je suis très étonné que les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, heureusement qu'il y a la gauche d'ailleurs, pour parler de l'écologie, parce que la droite n'en parle jamais, mais en plus, ils ne parlent jamais de nature. Ils ne parlent que de la pollution, mais on ne parle pas de nature. On ne parle pas de l'alimentaire. On s'en fout. Vous avez vu ce qui est arrivé cet été, là? Vous avez lu un peu dans les journaux, là?
De quoi?
C'est dans certains vignobles où les gamins ont eu des problèmes, des graves problèmes. Vous l'avez lu?
Non, moi,
je
ne sais pas,
c'était le nom. Il n'y a que vous qui ne l'avez pas lu, ça, c'est lu.
Personne ne répond, on l'attaque. C'est facile de le faire engueuler. Racontez-nous.
On n'est pas malade,
parce qu'on a bourré de pesticides, d'insecticides, et il y a 18 gamins qui se sont retrouvés à l'hôpital, sous perfusion, et ce n'est pas normal. Donc on devient fou, quoi. On est en train de perdre la boule.
La nourriture à l'hôpital, vous qui avez été malheureusement à cause de votre accident.
Oui.
Il n'y a pas un truc aussi à faire là-dessus?
Ah bah ça, vous avez tout à fait raison. Vous savez, il y a deux choses à l'hôpital. Vous savez, je peux vous en parler, je suis resté un moment. Il y a deux choses à l'hôpital, vous attendez. Vous attendez vos amis, les gens que vous aimez. Le cœur, vous l'attendez tous les jours. Et la deuxième chose que vous attendez, c'est le moment du repas. Et le moment du repas, je peux vous dire, en général, c'est une catastrophe.
Et c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'on fait des économies sur la fabrication des repas à l'hôpital. Et malheureusement, ça conduit les malades à rester plus longtemps, à occuper plus longtemps les lits.
Mais vous avez tout à fait raison.
Et l'économie, finalement, elle est complètement inutile et contre-productive.
Et vous croyez que sur le fond, sur la philosophie générale, vous croyez que l'assiette, c'est la meilleure des pharmacies? Mais si on augmente cette qualité de l'assiette, mais bien sûr que tout le monde y sera gagnant.
Et
puis vous savez, une personne qui mange bien... Je vous promets que c'est spirituel. Regardez son visage. Son visage est gai. Son visage s'est rempli de bonheur. Parce que la nourriture, c'est source de vie. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, je voudrais bien que les jeunes se mettent dans la tête et qu'ils ne mangent pas n'importe quoi. Regardez les émissions qu'il y a à la télévision. Vous avez vu avant-hier l'émission qu'il y a eu, là, sur les animaux? Mais c'est une horreur.
Il faut que nos gosses soient ça.
C'est pas possible. Ça peut pas durer. On est en surproduction partout. Regardez ce qui nous arrive, nous. Excusez-moi.
Allez-y, vous êtes passionné, parfait. Continuez.
J'ai des vaches. J'ai des vaches, je trais mon lait, mon client boit le lait tous les matins de mes vaches, j'ai les œufs de mes poules, on récolte, on a des serres, on essaye de vivre en autarcie. On est à 80% d'autarcie, puisque malheureusement les citrons et les bananes ne poussent pas là-haut, on a une telle altitude.
Donc vous les tuez pour faire votre viande?
Je ne veux pas les tuer, pourquoi les tuer?
La viande, vous la faites comment?
Mais je n'ai pas besoin de tuer, je ne fais qu'une seule viande, c'est une viande de chasse. Parce que la viande de chasse, vous savez pourquoi? Parce que la viande de chasse, en général, il n'y a pas de chien derrière. Je dis bien quand il n'y a pas de chien. Donc elle n'est pas traquée. Coup de fusil, elle meurt. Donc il n'y a pas cette traçabilité d'abattoir. Et en plus, il n'y a pas d'antibiotiques. Il n'y a pas de vaccin.
On la tue quand même, d'accord.
On la tue quand même. Ah oui. Je suis d'accord. Oui. Ça, c'était encore un autre débat.
Je pense qu'elle aussi est contente qu'on la tue avant qu'on la bouffe.
Je suis totalement d'accord avec vous. Ceci étant, elle n'est pas stressée, pas traquée. On est bien d'accord?
Parce que s'il y a un chien, ça change quoi?
Oui, on ne sait pas si elle est traquée. On ne sait pas non plus si elle meurt. On ne sait pas si l'animal meurt tout de suite.
D'accord.
Et donc la notion de souffrance animale, j'imagine qu'en tant que chef, vous êtes attentif à ça.
Je ne fais qu'une seule viande. Et j'étais un des premiers chefs à faire un menu végétarien qui se vend à 60% dans mon restaurant où il n'y a absolument pas de viande. Et je pense que
ça aussi c'est un problème, les menus végétariens.
Comme Alain Passard, faire que
des légumes,
et pas
fleurs,
de
fleurs de montagne.
Ouais, mais attendez, vous avez l'avantage qu'on a chez nous, c'est que on a un environnement que Alain n'a pas. Vous voulez.
Alain Passard, les gamins,
le matin, il fait une omelette au carvi, il va chercher les œufs dans le poulailler, le carvi, il va chercher au coin du bois. Nous, on ramasse, on a tout autour de la maison.
Mais il a des fournisseurs.
Ça n'empêche pas qu'Alain fait aussi de la viande. Ouais. Aujourd'hui, il en fait une fois de temps en temps.
Ouais.
On est bien obligé parce qu'il y a aussi encore une demande. Mais c'est très bien ce qui se passe. Avant, on avait 6 viandes dans nos cartes. 6-7 viandes il y a 5 ans. On n'a plus qu'une maintenant.
C'est laquelle?
On avait toutes les viandes.
Non, mais là que vous avez.
La viande de chat, si t'as dit.
Oui, mais laquelle?
Là, j'ai de la viande de cerf.
D'accord. Donc, pas de veau en l'occurrence.
Pas de veau et pas de verra.
il faut rappeler que le veau, c'est un bébé qui a 5-6 mois, c'est ça?
Ouais. Mais vous savez ce qui se passe avec les veaux, là, aujourd'hui? Vous savez, moi j'étais paysan jusqu'à 25 ans avec mon papa. Les veaux, d'ailleurs, on a, quand on avait les veaux, on en prenait soin, puisqu'on faisait la gnôle, nous. Mm-hmm. Hein, on faisait la gnôle de gentiane qui était réservée pour la bienvenue et pour les bêtes.
Ah bon ?
Bien sûr, on coupait le cordon ombilical du veau. Mm-hmm.
Et on désinfectait ?
On tirait, et on désinfectait avec l'eau de vie qui était réservée, vous vous rendez compte ?
D'accord.
C'était formidable, la naissance. Moi, je trouve que c'est un côté spirituel incroyable. Et le veau... Papa, il prenait le veau, il le mettait sous la mer. Et puis le veau, il têtait pendant 15 jours, un mois. C'est ce qu'ils font maintenant avec les veaux dans le monde paysan. Ils les mettent au sous-sol tout de suite. Et deux jours après, ils partent. Ils ne voient même pas la mer. Vous croyez que c'est normal, ça ?
Ouais, peut-être pas tous non plus, Marc, non ?
Non, mais attendez.
Non, mais beaucoup.
Écoutez, il y a quand même des gros producteurs. Écoutez, il faut défendre ici, moi, vous savez, je défends la petite agriculture, l'agriculture moyenne. Ouais. Et chez nous, il y a plein de bons agriculteurs, il y a plein de bons récoltants. Même autour de Paris, dans la vallée de la Chartreuse, là autour, vous avez des trucs extraordinaires. Il y a des choses exceptionnelles qui se passent à Paris.
Vous avez raison, Marc. Mais... Il faut pas oublier qu'il y a de très bons agriculteurs, qu'il y a de très bons éleveurs. Et qu'il y en a qui le font dans le respect.
Mais ceci étant, battons-nous contre la ferme des 1000 vaches. Enfin, arrêtons de couper les cornes des vaches. Arrêtons de couper les queues des vaches.
Mais je suis d'accord.
Est-ce que ça s'appelle aimer les animaux, ça ?
Marc Vera rouvre la Maison des Bois et il y a donc cette fondation à l'intérieur qui sera lancée officiellement au mois de mai 2017 avec de nombreuses personnalités. Il y a également le restaurant rural dont on va parler ou aussi la parution de votre autobiographie, Un chemin de fleurs et d'épines chez Michel Lafond. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand vous avez su que Marc était notre invité.
Et oui, et immédiatement, quand j'ai pensé à vous, Marc Vera, j'ai vu un chef atypique, toquer des cimes, si je puis dire, avant-gardiste, qui a compris bien avant l'heure que la gastronomie, c'était aussi une histoire d'image, du storytelling. Et d'ailleurs, votre façon de vous vêtir, je trouve qu'elle n'y est pas étrangère parce que on vous voit, on voit votre chapeau, on voit votre allure et on sait que c'est Marc Vera. Je trouve que c'est très...
C'est aussi du merchandising. Hein.
Bah, il y a une forme d'identité visuelle, en tout cas.
Il y a conservateur ou pas ?
Attendez, là, je suis obligé de vous arrêter.
Alors,
on dirait Mélenchon,
là, je suis obligé de vous arrêter parce que le chapeau, ce n'est pas du marketing.
Ah, mais j'ai pas dit
le chapeau,
alors,
c'est une histoire.
C'est moi qui l'ai dit.
Bien sûr.
Nagui, vous l'avez dit.
Nagui, vous l'avez dit. Nagui l'a dit, mais moi, je parle de...
Tu l'as pensé un peu. Mon
grand-père... Mette pas, toi.
Je vous raconte l'histoire en deux mots. Mon grand-père était communiste anticlérical. Il a fait venir l'école laïque dans mon pays. L'école laïque se trouvait à 6 km. Il fallait que j'aille à l'école. J'avais 5 ans et demi. Je faisais 6 km le matin, 6 km le soir. Il était pris de remords en disant « Merde, je suis quand même trop idéologue. Il faut que j'aille chercher le gamin le soir. » Donc il venait avec le troupeau de chèvres et de brebis. Et j'ai des photos exceptionnelles que je peux vous faire voir. Où mon grand-père était berger, il avait le même chapeau que ça. Et sur le chapeau, tous les soirs, j'avais droit bouquet de fraises des bois sauvages, bouquet de framboises ou bouquet de myrtilles. Alors vous vous rendez compte, j'embrassais non seulement le cœur de mon grand-père, et je mangeais la nature sur le chapeau. Donc ça m'a donné quelques idées pour la gastronomie, pour la suite. Et c'est quand même une belle histoire.
Eh bien justement, l'explication familiale, que j'ignorais totalement, va dans le sens de ce que je dis, c'est que tout d'un coup, ça vous donne une identité supplémentaire. Je crois sincèrement qu'on vient chercher chez vous une cuisine d'exception, voilà, tout simplement, et aussi quelque chose de très authentique, puisqu'il y a ce lien-là avec votre histoire personnelle. Alors après, dire que c'est du marketing, c'est encore autre chose. C'est devenu votre identité et votre image. Et on sait quand même que l'image des chefs est quand même capitale. En tout cas, je trouve que vous êtes assez unique dans le secteur et vous êtes reconnaissable au premier coup d'œil.
Merci beaucoup.
Et quand je pense à vous, je pense aussi à votre itinéraire. Vous l'avez évoqué, votre itinéraire un peu en dents de scie. Vous n'avez pas été épargné par la vie. On a parlé de l'accident. On a parlé aussi...
On va parler de quelques autres incidents dans la BO.
De l'incendie. Mmh. Est-ce que c'est une légende urbaine que de dire qu'après autant d'événements, on accède individuellement à une forme de renaissance ? Vous parlez beaucoup de spiritualité en cuisine. Mmh. Est-ce que tous ces événements-là qui vous ont frappé au cœur
Vous avez tout à fait raison. Moi, je sais que philosophiquement, j'ai une analyse complètement différente. Et vous savez ce que j'ai appris ? Une chose incroyable. À écouter et à aimer mieux les gens. Et aimer mieux les autres. C'est assez incroyable, hein. C'est depuis que j'ai eu cet accident. J'aime beaucoup plus partager, j'aime plus la convivialité. J'ai pris conscience que l'humain, l'humanité, c'est quelque chose de fabuleux. C'est des, les gens
et
sont
précieux,
formidables.
Et qu'on est, précieux. Qu'on est en sursis, c'est ça.
Et qu'on est en sursis. Ouais. On est en sursis, mais moi je vais dire tout le monde eu le pépin, mais on est en sursis, mais en même temps, ça forge l'humain, ça forge le caractère, et ça forge l'avenir. C'est très paradoxal parce que vous vieillissez.
Oui.
Vous vieillissez en même temps, et moi j'ai une vision de la vie et de la vieillesse, mais qui est complètement diabolique par rapport à ce que j'ai vécu avant. Mais j'ai vraiment pas peur de vieillir, et je n'ai pas peur de mourir. Mais c'est ça, je pense que cette nourriture-là psychologique naturelle, je l'ai pris dans la spiritualité de l'alimentation.
Marc Vera est notre invité. J'ai oublié de parler aussi de la, de votre encyclopédie culinaire du 21e siècle qui reprend à peu près aussi votre même philosophie, c'est-à-dire être le plus proche possible de la nature, partir des fondamentaux, des essentiels de la cuisine, mais d'une manière avec une vision beaucoup plus moderne. Il y a même la recette de l'omelette. C'est-à-dire que se dire que dans l'encyclopédie du 21e siècle, il y a l'omelette, mais il y a votre manière de de la faire, de la constituer, en partant, comme vous l'avez dit, peut-être avec
des œufs.
Des œufs frais, déjà.
Bien vu, je connais. Hein.
Oui, mais c'est bien, t'as une bonne base.
Je sais qu'il y a des œufs dans l'omelette.
Ouais. Vous verrez.
Non, mais lui finit sa recette en...
La couleur, vous verrez la couleur.
Avec du papier.
Quand vous allez venir me voir, vous verrez la différence.
Ah, d'accord, la patience.
C'est quoi, vous avez un petit tuyau, non? Il y a quoi? Moi, on rajoute de
la
l'eau, des fois, ou du lait,
œufs.
Non, à partir des œufs, l'omelette, nature, ça...
Non, moi, je mets du bouillon de légumes dedans. Je travaille le bouillon de légumes, mais vous savez, en fait... le bouillon de légumes, ça augmente le potentiel.
Vous le mettez partout. Vous le mettez partout.
Je le mets partout. Et bon, j'allais dire une bêtise, mais enfin, on peut le dire.
Oui, si, évidemment. Bon, c'est quoi la bêtise?
La bêtise, c'est qu'on gagne plus d'argent que du bouillon de légumes. Hein.
Très bien.
Ça augmente la quantité. Hein.
Mais ça, c'est pas une bêtise. C'est du business.
C'est une bêtise parce que le bouillon de légumes, c'est très long à fabriquer.
Ah, vous mettez pas un cube.
Et c'est très
non, parce que dans l'encyclopédie, il y a aussi la recette du bouillon. Et vous mettez 6-8 heures pour le faire, ce bouillon des légumes.
Je fais un bouillon des légumes. Enfin, on a complètement évité les fonds de veau, les jus de veau, mais il y a 30 ans. Si vous voulez, quand vous prenez mon premier bouquin, c'est assez marrant. D'ailleurs, je crois qu'il y a, parmi nous, il y a quelqu'un qui va arriver, là. Il y a quelque chose.
François-Régis Gaudry, c'est ça?
Ouais. Oui. Qui est quelqu'un d'exceptionnel. Et mes bouquins, il y a 40 ans, je faisais ce que vous faites à Paris aujourd'hui. La Benoîte urbaine, l'ail des ours, l'Aquilée millefeuille, la berce.
On ne fait pas vraiment ça, en fait.
Non, si.
Ah bon, toi, tu ne fais pas, toi?
Dans les restaurants, aujourd'hui, c'est devenu la mode.
Ah ouais, c'est très ail des ours. Hein.
Ce qui prouve, c'est qu'on va vers la nature. On va vers la vérité. Mais le seul problème qu'on a, c'est que ce qui est merveilleux, c'est qu'à Paris aujourd'hui, il y a aussi des gens merveilleux qui font des jardins. Mais c'est que souvent, c'est domestiqué, malheureusement. Tandis que nous, c'est sauvage. Et c'est un avantage. Et puis à Paris, vous avez un autre avantage. Et je suis obligé de rendre hommage à Paris, quand même.
C'est le métro.
Non, c'est un truc formidable.
C'est des voies sur berge coupées.
C'est un truc. Ouais, ben, vous vous rendez pas compte parce que vous êtes parisien. Moi, j'adore Paris. J'y viens 3 jours par semaine.
Il y a plein d'avantages, mais de quel côté vous voulez qu'on aille?
Paris, c'est formidable. Paris a organisé une chose incroyable. L'ancien maire de Paris, continué par la mairesse d'aujourd'hui. Incroyable. Pesticides, insecticides, phytosanitaires, out. On nettoie tout avec de la matière vivante, naturelle. Si bien que tous les parcs à Paris, les arbres revivent, tout revit. Vos abeilles, comme par hasard, tout le monde dit, c'est incroyable, il y a des abeilles sur les immeubles, il y a des abeilles partout. Ouais. C'est bizarre.
C'est bizarre. La région, elle, commande des bus diesel et pas des bus électriques.
Oui,
c'est bizarre.
Mais c'est encore autre chose.
Non, mais voilà, au même endroit.
Non, mais vous rendez compte, les abeilles, ils ont fait un boulot extraordinaire.
La ville et la région, c'est
ça. Ils ont fait un boulot extraordinaire, puisque les abeilles, c'est source de vie, les abeilles, on est d'accord? Elles vivent à Paris. Écoutez bien, madame. Posons-nous les bonnes questions. J'achète mes essaims à côté de l'Assemblée nationale.
Ah, c'est vrai.
Oui, madame. Ils viennent vivre en Haute-Savoie. Parce qu'il y a plus de... 50% tous les ans qui disparaissent en Haute-Savoie. Posons-nous les bonnes questions. Voilà.
Voici venir l'humeur de Nora Hamzaoui. Allez, Nora.
T'as pas vu la l'info, c'est tout toi. Allez. T'as pas regardé l'info.
Non, j'ai pas regardé. Marc Vera, je dois vous dire que vous êtes quelqu'un qui m'inspire beaucoup. La nourriture, la nature, votre maison des bois, tout ce que vous racontez sur votre enfance, ça me fascine. En même temps, je crois que quand on habite en ville, dans la grisaille, la pollution, et qu'on vient d'être invité à un apéro où on nous sert du tarama industriel sur du pain de mijaquet, on a de quoi être fasciné. Ah non, mais je dois être honnête, niveau bouffe, je crois qu'il n'y a rien qui me déprime plus que les gens qui t'invitent à prendre l'apéro et qui te servent de la merde. C'est insupportable. Alors vous allez me dire, ah non, ça va, t'exagères, c'est pas bien grave, le tarama industriel. Si, je suis désolée. On est des adultes, aujourd'hui, on a le droit d'avoir le choix. Ouais. Toute mon enfance, je me suis tapé de fêter Noël chez les vieux oncles et tantes qui te sortaient des apéricubes à chaque occasion. Aujourd'hui, j'estime que j'ai le droit à un peu de respect. Alors, le respect, un apéro, ça passe par quoi? Bah, ça passe par exemple par le fait de faire des choix. En gros, soit tu fais le choix de cuisiner maison, soit tu fais le choix de servir de la merde, mais tu cuisines pas maison avec de la merde. Sinon, ça s'annule, en fait. Sinon, on s'y perd. Sinon, sur les déventures de resto, il y aurait écrit cuisine maison de merde. Bon, bah non. En gros, la meuf qui t'explique fièrement que c'est elle qui a fait des petits fours alors qu'elle s'est juste contentée de fourrer une saucisse Herta dans une pâte feuilletée, c'est non. Voilà, c'est tout. Vous la voyez là, ce roulette de saucisse là?
C'est bizarre.
Attends, on dirait une mauvaise épreuve de Top Chef, c'est l'angoisse. Alors vous allez revisiter le hot dog, tu vas surtout me laisser tranquille, ouais. Et alors évidemment, ça s'est pas arrêté là. Bah non, la meuf avait plein de super recettes. On a notamment droit à ses rillettes maison. Donc quand on te dit rillettes maison, tu peux être surpris. Tu te dis donc quoi? Elle a un oncle qui a une ferme et qui fait ses propres pâtés. Elle a un porc dans sa salle de bain et elle va faire sa préparation maintenant. En fait, pas du tout. Alors les rillettes maison, c'est hyper connu. C'est ces gens qui fabriquent des sortes de mixtures à base de sardines, crème fraîche, thon, fromage blanc, jambon, Saint-Moray et qui appellent ça des rillettes. Donc au-delà du fait que ce soit dégueu, la préparation fait un bruit immonde. C'est moi, c'est que ça me dérange.
C'est pas mauvais. Non.
Mais si, c'est bon.
Ignoble. C'est ignoble. Et une bonne fois pour toutes, est-ce qu'on peut savoir qui est responsable de ce carnage? Il y a un bouquin de cuisine que tout le monde aurait qui s'appellerait Que cuisiner avec les restes du supermarché. Est-ce que c'est juste une passion improbable qu'ont certaines personnes? J'adore cuisiner, mais vraiment que de la merde. C'est possible, en plus. Parce que la meuf qui organisait l'apéro a un peu la même façon de consommer dans tous les domaines. Par exemple, c'est cette fille qui se dit fan de déco, mais qui en fait est fan d'IKEA. Tu sais, le genre de meuf qui va se faire tous les vide-greniers de Paris pour au final repartir avec une étagère Billy. Et le pire, c'est que cette conne va te dire « Ah, mais ça, je l'ai chiné dans une brocante. » Bah ouais, bien sûr. À un moment, pendant l'apéro, alors qu'elle était en train de se brûler le palais avec sa saucisse, là, elle nous a quand même dit « Je trouve ça con, moi, de pas faire les choses soi-même. » Non, mais tu les fais pas toi-même, tu les assembles, ça n'a rien à voir. En gros, c'est comme si moi, je te disais, là, mon collier, c'est moi qui l'ai créé. Bah si, j'ai acheté la chaîne et le pendentif, j'ai fait un collier, quoi. Bah non. Et j'ai créé la lumière tout à l'heure aussi dans le studio aussi, j'ai créé la lumière en appuyant sur l'interrupteur. Bah non. C'est insupportable. Ça doit être un truc qui vient de l'enfance, ça, je pense. Tu sais, les parents trop encourageants. Bravo, Hector, tu as créé un paysage. Alors que le mec a juste réussi à faire un puzzle, on se calme, tu vois. De toute façon, globalement, je pense que tout notre rapport à la vie, et plus particulièrement à la bouffe, vient de l'enfance. Moi, par exemple, j'ai su très tôt que la nourriture était une de mes passions. Je crois que mon déclic date de la première fois où j'ai fait de la pâte à sel et qu'au lieu de faire cuire le vase que j'avais construit à ma mère, je l'ai bouffé. Ma mère avait été horrifiée, elle était là. Mais qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Et mon cadeau de fête des mères? Ton cadeau de fête des mères, ma fille l'a mangé. Ah, elle t'avait offert des chocolats? Non, un vase! Bon. Franchement, plutôt que d'être choquée ou d'avoir honte de moi, elle aurait pu voir la beauté du geste, cet enfant autonome qui vit en autosuffisance, qui crée ses propres produits, qui les cuisine avec ses propres denrées. Bon, ok, la pâte à sel, ça se bouffe pas, mais quand même, tu vois, ça va. Et puis elle aurait préféré quoi? Que j'ai un petit enfant modèle qui lui fabrique des colliers de pâtes en jouant à la dinette, et puis qu'un jour, tu grandis et t'organises des apéros à base de knacky, hein? C'est ça qu'elle aurait voulu? Bah, moi, non. Donc, pardon. Voilà.
Bravo!
Merci, Nora!
Bravo!
Avec Nagui. Marc Vera et, j'allais dire, notre chef. Marc Vera est notre chef et notre invité aussi. Ouais, les deux en même temps, on va pas se gêner. Jusqu'à midi et demi, on va évoquer quelques années de votre vie, justement, parcours mouvementé, comme le rappelait tout à l'heure Leïla Kaddour Boudadi. On va partir dans les années 60.
De quel siècle?
Non, ça, c'est la musique que nous mettons lorsque Delphine range dans ce studio et elle ressort de ce studio. Car on sait recevoir ici. 67, en 1900, vous aimiez ces saisons de Vivaldi, vous les écoutiez?
Bien sûr.
C'est vrai?
Bien sûr. J'ai fait une...
Ça, c'est le printemps.
Ouais.
Évidemment.
Ouais. Et l'autre jour, j'ai fait une émission sur une radio annexe.
Laquelle?
Où j'ai décrit,
il faut le dire.
Radio Classique.
Bah voilà.
Où j'ai, fait le descriptif des quatre saisons. C'était assez incroyable. Avec la cueillette, avec l'allumage de la fumée, de la cheminée.
Et d'ailleurs, vous classez dans votre encyclopédie les recettes par saison.
Par saison, oui, absolument. Je trouve ça extraordinaire.
Moi aussi, quand j'ai vu, je trouve ça intelligent parce que vous collez au rythme des saisons. On ne mange pas la même chose été-hiver.
Exactement.
Mais grâce au conservateur.
Non.
Tu vas l'énerver. Oh, une bonne raclette à mi-juillet, c'est
attendez,
sympa.
Attendez, vous arrêtez.
Une bonne tomate en décembre.
Il faut qu'on défende nos producteurs. On a plein de vrais et grands producteurs en France, petits, il faut être contre la surproduction. Et la surproduction, il y en a, on la connaît. Hein, on n'a pas le droit de transformer, par exemple, comme on le fait en ce moment, nos farines avec certaines autres molécules. Ça c'est interdit.
Et il y a des gens qui travaillent bien. On achète tout, Marc Vera.
Donc,
comment
non, mais
on fait,
non, c'est pas
exemple.
Ça. C'est qu'il faut donc de la farine complète. Il faut de la farine de camoute, quoi.
Il faut de la petite épaule. C'est un épi qui s'ouvre pas, qui ne prend pas les seuls prix extérieurs. Enfin, il y a des choses toutes bêtes à savoir.
Mais vous le dites comme ça de façon évidente, mais c'est pas forcément.
Comment expliquer la farine de camoute?
Ah ben ça je suis pas suffisamment spécialisé dans la farine de camoute. Ah bon. Mais ce que je peux vous dire,
camoute, c'est rien n'est trié en fait. C'est les Égyptiens qui ont
c'est la farine
complète. Voilà, c'est la farine complète.
C'est la farine complète.
C'est le problème, c'est que dès l'instant où quelque chose est, mais même les médecins est transformé, industrialisé, que ce soit le sucre blanc et pas le sucre roux, le corps et la manière d'appréhender, les médecins te le diront, on ne le traite pas de la même manière.
Moi, je suis. Ce dont je reste persuadé pour nos enfants et nos petits-enfants, parce que nous, là, on rigole, on plaisante, hein, on est grand. Hein,
apparemment pas, là.
Et apparemment, on est grand, on a bien mangé, hein. Ah, vous êtes d'accord?
On mange bien, c'est pour ça que je suis souriante, moi, c'est pour ça.
On a eu une bonne croissance jusqu'après les années 2000, on est bien d'accord? Ouais. Les gosses, aujourd'hui, que va-t-il se passer? C'est ça le problème. Eh bien, moi, je voudrais qu'on fasse, nous, les chefs, des gens comme M. Gaudry, qui sont des gens extraordinaires, qui sont la pointe du combat, on fasse une chaîne humaine, on le fasse savoir et qu'on donne l'instruction. Le faire savoir. Savoir pourquoi ça on peut le faire et ça on ne doit pas le faire. Parce qu'il est question de la vie. Il est question aussi de la longévité. C'est pas compliqué, il faut pas avoir peur de le dire.
C'est ce que vous voulez faire avec la Fondation.
Mais oui, mais on veut.
Il est question de pédagogie aussi.
Mais
parce
bien
que
sûr,
faut
bien
peut, est-ce qu'on peut revenir à ces années 60 où vous avez été quand même renvoyé de l'école hôtelière?
Ah bah oui, ça c'est un...
Six
mois après l'entrée, j'étais renvoyé de l'école hôtelière.
Pourquoi?
Parce que... En fait, mes parents avaient une ferme d'hôtes, donc on avait, si vous voulez, dans la ferme d'hôtes, on avait une vingtaine de vaches, on barattait le beurre, on faisait le fromage, papa avait un jardin. C'est ce que je refais à la Croix-Frie, d'ailleurs. J'ai vécu avec mes grands-parents, moi j'ai une chance inouïe. Je suis l'homme, le cuisinier le plus heureux du monde, puisque même Paul Bocuse dit que j'ai fait le plus bel apprentissage du monde, puisque je suis un des rares qui a été paysan. J'ai eu une guerre avec mon papa, moi.
Mais comment le directeur de l'école hôtelière peut convoquer votre père fait pour ce métier.
Mais il l'a convoqué en disant, votre gamin est un rebelle, il n'est pas fait pour ce métier. Parce qu'il me faisait voir à l'école hôtelière comment on faisait une pâte à tarte. Et il m'amenait des framboises qu'ils achetaient au supermarché. Donc j'étais déjà devenu rebelle, puisque la pâte à tarte, je la faisais avec ma grand-mère, et je la faisais d'une toute autre façon. Et les fraises et les framboises, on allait les cueillir, nous. Alors naturellement, étant rebelle, je faisais la réflexion à mes professeurs, en disant, mais c'est de la merde, votre truc.
Vous aviez quel âge?
Alors, 17 ans. J'avais 17 ans. Donc ça n'a pas duré longtemps, au bout de 6 ans, on m'a dit la politesse, etc. Ils avaient bien raison, et ils avaient bien raison.
C'est pas de la compétence, c'est un manque de discipline.
Non, mais ils m'ont dit, j'ai quand même une lettre du proviseur qui dit que... je ne suis pas fait pour ce métier, que je dois prendre une autre orientation.
Ils ont toujours le nez très fin, les profs.
En 1978. Sans les profs, on ne serait pas là non plus.
Garde forestier, je te rappelle.
Toi, tu dois être.
Ah, moi, on m'avait conseillé.
Mais oui, mais ça s'appelle. C'est pas un prof, c'est un conseiller d'orientation.
C'est
ton côté nature à découvert.
Oui, c'est vrai.
En 1978, vous ouvrez votre première auberge et vous écoutiez.
Faut vous dire, monsieur. Que chez ces gens-là,
Stromae,
on ne pense pas.
Tu vois, c'est pas.
On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville.
On vous retrouve totalement dans cette chanson de Brel. Hein.
Oui, mais j'adore Brel.
Mais là, ce texte-là, il colle bien à ce que vous pensez.
Bah oui, il colle à ce que je pense. Il colle à... Il colle un peu à l'urbanisation et la ruralité. Tu vois, cette fonction qu'il y a entre les deux. Et je trouve qu'il y a une espèce d'osmose là, entre les deux. C'est assez incroyable, quoi.
Vous ouvrez votre première auberge avec votre sœur à la Croix-Frie, donc à Manigo. Vous êtes installé là-bas pendant 8 ans. Il fallait que ça se passe à la Croix-Frie. C'est votre spot, ouais, c'est ça. Ouais.
La terre.
C'est votre coin de planète.
Mais écoutez, on écoute Brel, là, il le dit d'ailleurs.
Il dit quoi pour
la
vous
ben, revenir aux sources. Ouais. Je veux dire, source de la vie, c'est quoi la source de la vie? C'est la source où vous êtes né, où vous avez été éduqué. Et moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai cette osmose entre la vie et le métier que je fais. Vous vous rendez compte? J'ai tout autour de moi. On a tout autour de nous. C'est ce que je dis à mes enfants. On a la nature, on a la botanique, on a nos bêtes, on fait le métier qu'on aime, on reçoit les gens de l'extérieur. Moi, j'avais un grand-père, il était communiste, il était extraordinaire. Vous savez ce qu'il nous disait? On avait toujours une grande table avec, et on recevait les gens, il appelait ça les étrangers, ce qui n'était pas péjoratif, ce qui était très respectueux, hein, parce qu'il y avait des gens d'Annecy, hein, c'était les étrangers, hein, c'était à 30 kilomètres. Et il disait, mes enfants, ouvrez grand vos oreilles. Parce que tout ce qu'il vous raconte, c'est une ouverture sur le monde. Vous vous rendez compte qu'il nous disait ça, mon grand-père, à l'âge de 7 ans. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas différent après dans la vie? Et on avait une ouverture parce qu'il disait, vous savez, dans le milieu paysan, on est quand même un peu refermé sur soi-même. C'était incroyable. C'est incroyable d'entendre ça. Je veux dire, quand t'es gosse, et quand tu vois arriver sur la table, tous les matins, ton père qui arrive avec des cagettes, qui a fait le jardin, on va traire les vaches, on fabrique le reblochon, la tomme, on avait notre four à pain, on fabriquait le pain. Et aujourd'hui, j'ai remis tout ça au goût du jour. Par exemple, le pain, il faut savoir une chose. Moi, je fais du pain qui a un mois, qui dure un mois.
Et comment vous faites?
Ben, c'est tout simple.
Des conservateurs.
Un conservateur naturel. Des bonnes dents. Un conservateur naturel qui s'appelle le son. Ah. Hein, c'est ancestral.
D'accord.
C'est ancestral, on met du son. Dans un grand coffre, on met
du bon,
son.
Le pain.
Et on met le pain est extraordinaire à moi.
Mais c'est ce que vous montez dans votre herbier aussi, c'est qu'il y a des gélifiants aussi naturels. Il y a,
bien sûr,
on n'est pas obligé de chercher des produits chimiques.
Le problème de la cuisine moléculaire. Le gros problème de la cuisine moléculaire. Pourquoi la cuisine moléculaire est en train de disparaître? Parce qu'on a mis des produits qui sont dangereux à l'intérieur pour la santé. Vous le savez ça. Qui sont dangereux pour la santé. Alors que nous aujourd'hui avec Couplan, on est en train de chercher des choses incroyables. On a par exemple des gélifiants naturels, des laitances de berce, on a les feuilles de pensée de montagne. Vous les mettez dans un verre, vous remontez votre lait à 37 degrés, vous mettez une dizaine de feuilles de pensée dans le verre, vous mettez au réfrigérateur, vous sortez, vous mettez le verre sur dessous. C'est extraordinaire, gélifiant naturel. C'est formidable la vie, vous vous rendez compte? On a tout, vous vous rendez compte? En ce moment, je suis en train de faire des beignets.
Comment vous l'avez découvert
Le nombre de verres de lait qu'il a foutu par terre.
On est en train de faire des beignets de lichen.
Spécial.
Le lichen qu'on ramasse sur les arbres. Mm-hmm. En plus, on a un four vapeur pour enlever les bactéries qui montent à 1,30 bar. C'est extraordinaire. Mais c'est un goût extraordinaire. Mais est-ce que vous vous rendez compte, la démarche du cuisinier? Vous savez, mon second, on dit, ouais, Vera, c'est du bluff, c'est lunettes, c'est mal. Le second, il s'est mis en colère, je sais pas si vous l'avez vu, d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, il s'est mis en colère, il a dit, puisque c'est des bêtises, vous avez qu'à venir avec nous, puis vous levez le matin, vous allez voir, il n'y a pas de problème. On va vous emmener, on va vous faire voir ce que c'est. Mais vous vous rendez compte, le cuisinier, la démarche, il va chercher son produit sur le sapin, il le ramène en cuisine, et il le travaille. Mais la démarche, c'est extraordinaire.
95-96, Marc Vera reçoit sa troisième étoile et il écoute. Traviata de Pavarotti, vous recevez votre troisième étoile en 95 et en 96, vous êtes reconnu numéro un des chefs de cuisine par le Wine Spectator, magazine américain considéré comme le plus grand chef du monde à ce moment-là. Cette reconnaissance, cette notoriété fait forcément naître des jalousies, des railleries, vous en parlez justement.
Bien sûr, c'est normal. Mmh. Normal. Mmh. Attendez, je crois qu'il y a eu des erreurs de commises aussi. Moi, je le dis sincèrement, 20 sur 20, paraît-il qu'on voulait être le premier, bah, il suffisait d'un demi-point. Je veux dire, l'excellence, elle n'existe pas. Quand le client arrive, on parlait avec M. Gaudry qui est là, M. Régis Gaudry. Vous savez, c'est comme les 50 meilleurs chefs du monde. Hein, je le dis, je le redis. Hein. Ça ne devrait pas exister.
Le classement lui-même.
Ben bien sûr, vous savez pourquoi ? Parce qu'il est financé par des sociétés qui nous infectent.
T'as compris, Nagui ?
C'est-à-dire,
Gaudry. Ah ben, il est là, François-Régis Gaudry.
Qui est critique. Vous demanderez à M. Gaudry, il va vous confirmer ce que je vous dis. On met des produits à l'intérieur des cuisines moléculaires qui est financé par ces sociétés-là, qui n'auraient pas le droit de nous financer, les 50 meilleurs chefs, et puis auxquels on a participé ensemble. N'est-ce pas, M. Gaudry ?
Alors, vous venez nous chercher. Il va falloir nous expliquer, parce que journaliste critique, et puis.
Bon courage.
Il est dans la maison tous les dimanches de 11h à midi.
Ouais. Moi, j'adore vous écouter.
On va déguster. Ah bah
merci. Ouais, vraiment. Et puis, je suis contente de vous voir parce qu'on ne voit jamais votre visage.
Bah, c'est possible de la radio. Oui. Peu, ouais.
Non, mais en plus, sur la promo de son émission, il cache son visage avec.
Parce qu'il est beau gosse. Il y a encore autre chose qui est meilleure avec lui, vous savez ce que c'est ? C'est ses papilles, hein.
C'est papilles.
Attention. Il s'est dégusté.
Il crie donc à la manipulation de ces classements des plus grands chefs du monde, vous êtes d'accord ?
Ouais.
Merci.
On se racontait ça en coulisses. Moi, j'ai fait partie pendant 5 ans du jury des World 50 Best. C'est devenu une énorme machine marketing créée dans les pays anglo-saxons. Et c'est vrai que c'est désormais le classement qui fait la pluie et le beau temps dans le monde. C'est-à-dire que si, dans ce classement des 50 meilleurs restaurants du monde, si vous êtes dans les 10 premiers, vous êtes à peu près assuré d'avoir un an de réservation. Le tout est de savoir si ce classement repose sur quelque chose d'un peu sérieux.
D'accord, mais
les méthodes sont contestables, il y a du lobbying.
Mais comme pour Michelin, comme pour le Goemio, il y a toujours eu des rumeurs là-dessus.
Non, le problème, le Michelin a toujours eu un rapport à l'argent qui est très clair. Le problème du World 50 Best, c'est que ça a suivi la voie du sport de haut niveau, à savoir que désormais, il y a du lobbying, du sponsoring par des grandes marques d'agroalimentaire qui, à mon avis, pervertissent totalement le modèle. Quand vous avez une marque d'eau minérale qui soutient un classement et que cette même eau minérale va ensuite voir les chefs qui sont classés dans les 50 meilleurs restaurants en leur demandant est-ce que vous pourriez prendre de la 100 etc. À votre carte, c'est un peu la condition, sinon ensuite on sait qu'il y a des tractations et que le chef a un peu cette épée de Damoclès sur la tête.
À nouveau, comme dans tous les domaines, on va plus rien croire et on nous prend des comptes.
Moi je suis bien placé pour vous le dire parce que j'ai fait partie du système de l'intérieur. Très naïvement au début, j'ai accepté pendant
5 ans. Vous avez pris du pognon ou pas?
Absolument pas, justement. Non, mais
la 100p, par contre la 100p il en avait à la maison.
J'ai un peu senti que ça commençait à sentir le roussi quand des chefs m'ont appelé pour me faire venir gratuitement dans l'espoir d'obtenir ma voix, parfois même me proposer 2-3 trucs pour que je vote pour eux, stop quoi.
Mais je l'écris dans mon futur livre, j'ai fait partie de cette fameuse commission française où nous étions 7, et où le dirigeant me dit, il faut voter Chateaubriand. Je dis, mais attendez, moi je peux pas aller dans les restaurants du monde, je les connais pas. Il dit, on s'en fout. Ça va simplement pour embêter les 3 étoiles, on va mettre Chateaubriand. Ça n'empêche pas que Chateaubriand a beaucoup de talent. Attention, et je le respecte énormément. Mais en tous les cas, ce journaliste me l'a dit. Et je suis prêt à témoigner. Donc c'est quand même grave.
Mais pourquoi les chefs continuent à participer ? C'est quoi pour remplir ?
Parce que paradoxalement, ils se rendent compte que c'est désormais un outil qui peut aussi leur servir
marketing.
Au service de leur communication. Mais ils savent très bien que ça a un impact tellement énorme dans le monde entier.
Le guide Michelin va arriver là cette semaine, le guide Michelin 2017. On a déjà d'ailleurs des informations sur
nouveaux étoilés, des fuites. Le jour où on n'aura aucune fuite et aucun pronostic quelques jours avant, ce sera mal barré pour le Michelin. Heureusement, il y a encore un buzz orchestré sur les réseaux sociaux. Moi, je m'aventure pas trop pronostic parce que désormais le guide Michelin a vraiment coupé les vannes. Avant il s'arrangeait pour orchestrer une petite fuite qui était reprise, etc. Puis là il y a bien quelques journalistes qui supputent des choses, mais ce qu'on peut raisonnablement dire c'est que l'an dernier le guide Michelin dans son palmarès 2016 remettait la 3e étoile à des chefs parisiens de Palace, Alain Ducasse au Plaza Athénée et Christian Lesquer au 5, le restaurant du Georges V. Bon, en général on sait que par esprit d'équilibre, là, ils vont plutôt récompenser un chef de région. Alors, on évoque Alexandre Couillon. Oui, bon, il s'appelle Alexandre Couillon, mais
vous êtes parti tout seul. Hein. Nous, on n'a
rien dit.
Nous, on respectait.
Ça en reste pas moins. Un super chef à Noirmoutier. Il y a Olivier Belin également dans le Finistère. Il y a éventuellement Christophe Baquier dans le
Var. Belin, il est super bien. Il est super bien. En plus, c'est un mec, c'est un être humain adorable.
Moi, j'adore. Pas toujours.
Bah si, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. En tout cas, je peux dire, c'est un mec vachement bien.
Mais tous les cuisiniers sont très bien.
Non, pas
tous.
Les guides ont toujours autant d'influence. Quand vous dites, dès l'instant où on a une étoile, où on est bien noté, où on est classé dans les 10 premiers, on a des réservations pendant plus d'un an, ça marche vraiment comme ça ?
Si vous me parlez du guide Michelin, on évoque souvent la crise identitaire du guide Michelin. Il est vrai qu'il y a quelques années, le guide Michelin, il vendait 500 000 exemplaires de leur guide chaque année.
Là, c'est tombé à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, mais c'est aussi la crise du papier, etc. Toutefois, dans le regard des chefs, évidemment, ouais. Le guide Michelin reste super important. Je pense que même Marc, il attend de savoir ce que le guide Michelin va penser de sa cuisine jeudi. Et les chefs qui vous disent « moi, le Michelin, j'en ai absolument rien à faire », en général,
ils sont des menteurs.
Ouais, même si on observe quand même.
C'est-à-dire que si on vous enlève quelque chose ou on vous rajoute quelque chose, ça peut tout
c'est
tout
des
changer.
Drames, mais c'est des drames. Et moi, j'ai vécu. Attendez, j'ai vécu. Mon meilleur ami, c'était Bernard Loiseau. J'ai vécu. Bernard m'appelait sans arrêt en me disant ils veulent m'enlever les étoiles, ils veulent m'enlever. Bah, qui commence à tous m'enlever, qui m'enlève tout, etc. Mais vous pouvez pas savoir la pression qu'on a sur les épaules avec ça. Et on a peur, on a tout le temps peur. Et moi, lorsqu'on a eu le 20 sur 20 et ce titre de meilleur chef du monde, c'était
un cadeau empoisonné.
Moi, ça a été une catastrophe pendant 5 ans.
Parce qu'après les 5 minutes à se dire 20 sur 20, c'est extraordinaire, c'est un record du monde.
On peut faire que moins.
Non, mais on peut faire que moins.
Et si vous faites moins, qu'est-ce qui se passe?
Il y en a quand même qui seraient contents d'avoir une fois 20 sur 20 dans leur carrière.
Non, mais c'est vrai que dès que tu prends 19, on dit c'est la chute.
Je suis d'accord. Voilà, c'est pas mal de se faire arriver une fois déjà à 20 sur 20.
Là, ce que vous attendez cette semaine, c'est de rester au même niveau.
Non, mais ce que j'attends cette semaine, non, surtout, bon, écoutez, là, on vient d'avoir Ago et Mio, ils nous ont mis 5 tocs tout de suite. Bon, ils sont venus un peu plus tard que le Michelin. Le Michelin, ils sont venus quand on était encore pendant les travaux. Alors, pour l'instant, cette année.
Je croyais que vous ne saviez pas quand ils sont là.
Si.
Ah, vous savez.
Attendez.
Ils font des dérapages sur la cour.
Non, attendez.
Mais qu'ils sont gros, ils sont tout blancs.
Non.
C'est ratatouille,
Non, mais attendez. Monsieur Gaudry, pour vous le dire, soyons sérieux, le Michelin est ce qu'il est. Mais le Michelin, il a fini le repas, une fois qu'il a payé l'addition, il montre sa carte. Tout le temps. Donc vous savez absolument.
Il paye
et après il monte.
Ils sont très rigoureux là-dessus.
Simplement, ils sont venus, on était en plein travaux. Cette année, ce qu'on veut, c'est simplement qu'on existe sur le guide. Et puis l'année prochaine, qu'on a les 3 étoiles, ça, je veux qu'on les ait. Et je suis certain que l'équipe, chez nous en ce moment, d'après les commentaires qu'on a, en tous les cas, sur les réseaux sociaux et tout, l'équipe la mérite largement. Voilà.
François-Régis Gaudry, on voit, on entend avec la sincérité et la fragilité de Marc Vera. Pourtant, on pourrait se dire, c'est Marc Vera. Hein. Il craint des gains, comme on dit à Marseille. Il a pas peur d'être bien critiqué ou mal critiqué. Et pourtant, il continue de.
Mais c'est ça qui est terrible.
Fragile là-dessus.
Moi, avec mon émission de gastronomie pour France Inter, ça nous arrive comme vous, Nagui, de circuler dans les régions et d'être au contact de notre public. Il y a souvent des jeunes qui viennent me voir après l'émission. En me disant, j'ai envie d'être chef, quelle école faut faire, etc. Et je leur dis souvent, ça peut être clairement le meilleur, le plus beau métier du monde, et en même temps, c'est clairement l'un des plus durs. Il y a une dictature permanente, il y a un esprit de compétition, une espèce de système méritocratique qui a été instauré par le guide Michelin au début du XXe siècle, qui fait que les chefs sont assujettis à une sanction ou un risque permanent. Et en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que non seulement le chef, il a la double responsabilité d'être à la fois un créateur, donc ça, c'est l'image du chef au chapeau noir qui va accueillir de la Benoît Urbaine ou de l'Oxalis.
Le chef d'entreprise aussi.
C'est le chef d'entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de chefs, en espérant les étoiles ou en s'appuyant sur des étoiles, qui indexent en fait leur réputation, leur surface financière et médiatique sur un système d'étoiles, et tout peut s'écrouler du jour au lendemain. C'est ce qui a failli arriver à Bernard Loiseau. Malheureusement, il a préféré se donner la mort avant. Mais Bernard Loiseau, il a quand même commencé à flipper quand le guide Michelin l'a convoqué quelques mois avant sa mort, en lui disant attention, on a du courrier des lecteurs. Manque d'âme, vous allez perdre votre 3e étoile. Bernard Loiseau, c'était le golden boy de la gastronomie. Il avait énormément de talent, mais il avait fait des investissements colossaux quand même à Saulieu. Il avait ouvert des bistrots à Paris. Il faisait du consulting pour l'agroalimentaire. C'était la première fois qu'un groupe de restauration était indexé en bourse. Donc effectivement, à un moment donné, même s'il avait certainement des problèmes psychologiques,
Le problème,
il y a une pression, il supportait plus la pression.
Non, le problème n'est plus la cuisine en elle-même, le restaurant en lui-même, mais tous les produits dérivés qu'il y a autour, les marques ou les bocaux.
Nagui, on a un problème, tout ce que vient de dire
François,
il a tout à fait analysé la situation. En plus, vient s'inscrire dans tout ça une rigueur absolue de l'excellence. La rigueur absolue de l'excellence... Les choses ont terriblement évolué. Quand vous dites à quelqu'un, attention, c'est comme ça qu'on le fait, vous le dites une deuxième fois, une troisième fois, aujourd'hui, on est au 21e siècle, est-ce que ça ne deviendrait pas du harcèlement? l'excès de rigueur.
Absolument.
Gros problème. Oui, dans les gros problèmes pour le futur de notre profession.
De votre personnel.
Oui, non, mais mon personnel. Moi, j'ai un personnel exceptionnel, des gens adorables, formidables, une ambiance. Mais non, mais je veux dire, pour la jeunesse qui arrive, est-ce que cette rigueur absolue ne va pas devenir quelque part.
C'est pour ça, à mon avis, qu'il faut quand même mettre le doigt sur un phénomène important et qui montre que notre paysage gastronomique est en train de bouger. Il y a quand même une frange de plus en plus large dans le milieu toqué de chefs, et notamment dans la jeune génération, qui veulent s'affranchir de ce diktat, de ce carcan, du guide Michelin, de la critique, etc. Vous prenez un Yves Candebord, vous le connaissez bien,
Très bien.
Nagui. Ah bah, regardez, c'est un des chefs les plus charismatiques.
Formidable.
C'est un de ceux chez lesquels vous prenez le plus votre pied dans l'assiette. Le guide Michelin, il a laissé tomber la compétition. Il préfère cuisiner par plaisir pour les copains que par compétition, exactement, précisément. Et ça, des chefs, il y en a quand même de plus en plus. Le Michelin ferait bien de se poser un peu la question.
Quelqu'un qui cherche à se régaler et à s'amuser en sortant des sentiers battus.
Les chefs aujourd'hui qui embrassent ce métier, ils ont juste envie de se dire qu'ils ont peut-être un peu moins envie de faire des sacrifices. Ils ont envie de pas forcément ouvrir leur restaurant le week-end pour avoir une vraie vie de famille. Ils ont pas envie de prendre des risques financiers colossaux.
Ouais, mais on bouffe le week-end, nous, alors.
Mais
Mais ça va devenir un problème.
Vous savez, il y a dans des régions touristiques, il y a aussi des chefs.
Mais chez Candebord, on peut pas réserver, en plus.
Il est victime de son succès.
Je ne suis pas
comme quoi le succès est pas tributaire non plus du nombre d'étoiles.
Je ne suis pas persuadé
qui est plein en permanence. Ouais.
Je ne suis pas persuadé non plus que moi je l'ai fait. J'ai couché pendant un an à la réception par terre sur un matelas. Vous savez pourquoi? Parce que j'y arrivais pas financièrement. Vous vous souvenez les affaires que j'ai eues avec Pierre Gagnère en même temps. Et ben ça me supprimait le veilleur de nuit et ça me louait et ça me dégageait une chambre. Est-ce que la jeunesse est prête à faire des sacrifices comme ça aujourd'hui?
Mais est-ce que c'est indispensable de faire de tels sacrifices? C'est la vraie question qu'il faut se poser.
Mais c'est ce que vient de dire Régis.
Voilà. Du point de vue du client, je peux vous assurer que Madame, vous pouvez vous éclater dans des restaurants sans étoiles. Il y en a plein partout.
C'est le système qui nous oblige à faire ça.
Il y a un livre génial dont je voudrais parler, pas uniquement parce que c'est avec un terme, mais non, mais il est incroyable. Chez Marabout, on va déguster l'inventaire croustillant depuis Escoffier jusqu'à la carbonara, vous dites, mais où les macarons, j'aime bien aussi, c'est très moderne.
Ouais.
C'est très fashion.
Énorme succès d'édition.
Toutes les recettes possibles et imaginables que vous avez remis en bouche, comment vous les avez choisies? Parce que là, il faut faire des choix. Hein.
En fait, avec ma fine équipe, parce que c'est un ouvrage collectif, il y a mes chroniqueurs à la fois sur Inter, mais j'ai aussi une émission sur Paris Première, et puis je travaille à l'Express, et donc du coup on a une petite team de jeunes journalistes passionnés par la chose, et on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de mettre qu'on adore dans un bouquin, et donc on a, alors évidemment ça peut pas être exhaustif, mais en tout cas on a mis un maximum de choses qu'on apprécie, et c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens,
tous les noms des chefs, tous les noms des produits, oui c'est super,
c'est
très didactique, très expliqué, non mais c'est très clair, c'est une pure idée de cadeau en tout cas,
merci beaucoup,
que je vais d'ailleurs me garder. François-Régis Gaudry et ses amis, il a l'honnêteté aussi de les citer, et on vous retrouve de 11h à 12h, on va déguster sur Inter, merci d'avoir apporté votre éclairage, votre lumière. On voit en tout cas Daniel Morin avec ce que l'on vient d'entendre. La vie des grands chefs est faite de plaisir, mais c'est aussi, comme l'a dit Marc Véra, c'est un combat permanent pour rester connu, reconnu.
Non, je vous en supplie, arrêtez d'être excellent, nom de Dieu. Vous allez me flinguer, bordel. Avec votre accroche, là, je viens de recevoir une rafale d'intelligence en plein cœur. Même si aujourd'hui, apparemment, vous tirez à blanc. Oui, mon bon monsieur Guy, en plus d'être affligeant, c'est totalement faux ce que vous venez de dire. Vous n'allez pas me dire que couper des patates, faire cuire un steak, c'est un combat permanent quand même. Merde à la fin. J'en parlais encore avec les chefs étoilés de la cantine de Radio France. Ah bon ? Ne riez pas, c'est très désobligeant. Oui, je sais, ceux-là même qui l'année dernière ont été condamnés à 6 mois de prison pour préparation de cocktail de crevettes avec intention de donner la mort. Oui. Eh bien, ils me l'ont dit clairement. Les grands chefs, c'est comme les mauvais cuistots, sauf que les grands chefs, ils se lavent les mains après avoir fait pipi. Voilà. Le seul combat des grands chefs, c'est trouver des noms plus cucu les uns que les autres pour baptiser leur menu à 200 boules le plat et que je te sors la farandole de champignons vierge, la promenade de labyrinthe de carottes, l'esprit de concombre à la royale, la mousseline de bœuf et son nuage de vinaigre, le velouté de saucisson à la Vivaldi. Non mais oh, sans blague. Arrêtons l'arnaque. Un steak. Une purée.
C'est une purée.
Ben voilà, vous êtes au courant alors. Le combat pour rester au top l'enveloppe est simple, monsieur Guy. Pour un toqué ou un tocard, que ce soit pour midi ou le repas du soir, pour assurer la victoire, il faut alléger Picard.
Oh, la rime.
Voilà,
oh,
la mais c'est dit. Désolé,
rime,
monsieur Guy. Mais une fois de plus, vous avez dit
non, n'importe non, quoi.
Merci, Daniel Brown. La bande originale.
Marc Vera est notre invité, et ce jusqu'à midi et demi dans la bande originale où nous continuerons d'évoquer avec lui l'ouverture de sa maison des bois, mais aussi toutes ses recettes et sa vision de la cuisine moderne. Alors... C'est la bande originale avec Norman Zawi,
bonjour,
Tom Villa,
bonjour,
Richard Ormac, compagnon au clavier, et notre invité Marc Vera. Voilà, c'est pour ça que la semaine prochaine, je ne serai pas là, parce que ils feront tout à ma place.
C'est vrai? Leïla, tu me laisses?
Non,
comment je vais faire?
Je prends des vacances, ça va être extrêmement simple. Leïla, à la montagne, tiens. Leïla, c'est lundi que tu présenteras cette émission.
Je recevrai Reda Kateb.
Voilà. Mardi, ça sera toi, Tom Villa.
On va recevoir Mathieu Madénian.
Ah, c'est celui qui me traite d'enculé dans son livre.
Oui, je crois.
C'est pour ça que je viens pas.
Quand on travaille sur le service public, c'est intéressant d'avoir un nom de famille.
C'est vrai, c'est intéressant.
Et mercredi,
Daniel Morin avec deux comédiens pour le prix d'un.
Oui, on parlera de deux pièces déjà. Franck Leboeuf va venir pour nous parler d'une pièce superbe sur la belle-mère.
Et c'est qui les deux comédiens là?
Et c'est Franck Leboeuf pour l'un et Bruno Solo pour l'autre.
Et Bruno Solo pour une magnifique pièce que j'ai vue hier avec des comédiennes formidables.
Ah, t'as deux invités, toi. Deux invités.
C'est plus riche.
Ah ouais, d'accord.
C'est plus riche.
Bon, je vais revoir ma programmation. Alors.
voilà le programme de la semaine prochaine. Mais cette semaine et aujourd'hui en particulier, Marc Vera est notre invité. On va parler un tout petit peu de la fondation, Marc. Parce que oui, il y a la réouverture de la Maison des Bois. Oui, il y a cette encyclopédie du 21e siècle qui est un très bel ouvrage. Ce sont trois volumes, hein, puisqu'il y a l'herbier d'un côté, il y a les recettes et votre enfance que vous racontez, avec aussi les recettes qui ont compté dans votre enfance.
Absolument, oui. Absolument.
C'est une réédition, c'est un bel objet.
Avec d'ailleurs une introduction, vous n'avez pas connu tout ça, vous n'étiez pas né.
Vous parlez
ça dépend qui, parce que Daniel peut-être...
Vous savez ce que papa me chantait le soir pour m'endormir?
Dites-moi.
Une chanson de Bert Silva.
Ah non, alors j'avoue que je suis perdu.
J'ai toujours les yeux embués lorsque j'en parle, et vous savez ce qu'il dit la chanson? Riches ou pauvres, quoi qu'on fasse sur la terre, et elle se termine en disant... qu'ils sont tellement heureux, si l'on pouvait arrêter les aiguilles.
Riches ou pauvres, voilà. Quoi qu'on fasse sur la terre.
C'est pas une émission produite, hein.
Je te jure. Chose éphémère, et des pendules, le tic-tac incessant, semble nous dire, tout passe avec le temps.
Tu comprends que tu grandis pas normalement quand ton père chante ça tous les soirs avant de t'endormir, tu vois.
Bah ouais. Mais pourtant, Bert Silva était décédé depuis très longtemps.
Hein. Ma fille écoute Zaz, hein, et voilà.
C'est
la même chose.
Alors, Marc, parlons de cette fondation, parce qu'elle va naître, voir le jour aussi, au milieu de maison des bois. Vous voulez militer toujours pour les produits du terroir, ça, on l'a compris, mais vous voulez promouvoir une alimentation saine qui n'est peut-être pas à la portée de tout le monde, parce que le côté j'ouvre ma porte et je vais chercher dans la campagne des herbes pour faire ma cuisine, on peut pas le faire, ça, nous, citadins.
On est d'accord. Il y a un problème entre... Oui, effectivement, le citadin, mais même le citadin, vous savez, Paris, c'est formidable, hein. C'est une ville formidable.
Mais venez,
hein. Alors. Vous rendez compte, mais j'arrive.
Mais j'arrive. D'accord, on vous attend.
Vous savez qu'on va ouvrir un restaurant au...
Ah non,
moi je sais. Si, vous le savez, Nagui.
Oui, bougez pas, bah dites-le pendant
quel arrondissement on va aller?
Au Palais des Congrès, porte-maillot, printemps été, ça s'appelle le Rural.
Palais des Congrès.
Avec un prix moyen à 40 euros, 35, 40 euros.
Plat du jour, petit déjeuner fermier, goûter d'autrefois, cocotte du soir, bonne humeur le matin, midi et soir, apéro sympa.
Mais ce que je voulais dire, Nagui,
j'ai le prospectus.
Moi, je sais pas que vous ne vous rendez pas compte à Paris, parce que moi, je vis chez moi à 1850 mètres d'altitude, du jeudi au dimanche, le lundi au mercredi, je suis à Paris. Mais Paris, c'est formidable. Vous avez toute la ruralité française réunie à Paris. Mais c'est hallucinant. Mais autant au niveau de la mode, de l'habillement, de la nourriture, vous avez toutes les régions réunies. C'est formidable. Alors effectivement, au niveau de la fondation, on va trouver certains produits. Certains produits vont être plus chers. Mais par contre, il faut informer les clients. Vous avez par exemple les AMAP. C'est formidable, les AMAP. C'est la réunion de paysans qui travaillent de manière saine
Bon, la vraie biologie à 100%, ça n'existe pas.
C'est pour, c'est pour avoir les légumes de saison.
Voilà, et, les légumes de saison.
Et qui viennent de la région et pas de l'autre bout du monde en n'ayant pas. Et
ça, c'est déjà la première chose à faire. Ouais. Le mettre dans son réfrigérateur. Et puis, je voudrais que les chefs s'investissent en donnant aussi des recettes spontanées et pas chères qui font qu'on peut manger complètement différemment.
Et puis il y a les légumes oubliés, pardon. Je pense avec AMAP aussi.
D'où la nécessité des recettes, parce que parfois dans les AMAP, quand on a, moi j'ai un carton, parfois je sais pas quoi faire.
Mais oui, mais le problème, madame, l'erreur qu'on a commise, nous les chefs, c'est qu'on a fait des livres trop compliqués. En gastronomie, c'est trop compliqué. Il faut trouver des produits, il faut des produits qu'on trouve sur les marchés. Mais vous savez, moi je suis quand même très optimiste, parce qu'il y a eu un sondage, quand vous dites aux Français... Qu'est-ce que vous mangez? Vous avez vu, oulala, les émissions de télévision qu'on a vues, certains produits, c'est affreux. On a vu une émission sur les porcs dernièrement, la reconstitution des jambons, c'était l'horreur, etc.
C'était cache investigation,
ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites pour changer votre alimentation? 95% vous répondent rien. Par contre, dans ces 95, il y a 78% de jeunes qui, lorsqu'ils ont un bébé sur le bras, vous disent... Oui, effectivement, nous sommes en train de changer notre système alimentaire. Donc c'est pour ça que je suis très optimiste pour l'avenir.
Marc Vera, jusqu'à 12h30, notre invité, voici l'humeur de Daniel Morin dans la bande originale. Sur Inter.
Ce week-end à Lyon, c'était un week-end hyper politique.
C'était chaud.
Trois meetings et du lourd. Le Pen, Mélenchon, Macron, tous les trois à Lyon. Le Pen, pour présenter son programme choc, Macron accompagné par Geneviève de Fontenay, attention, et Mélenchon en direct à Lyon, et façon hologramme à Paris, tout ça en simultané. Allez, on commence par Emmanuel Macron. Quelles étaient les attentes de l'ancienne maire Macrel des Miss France?
Oh ben il est bien le petit Emmanuel, hein, il est très très bien, j'ai toujours cru en lui, hein, c'est un gentil gars, il fera une Miss France formidable. Hein. Pour le passage en maillot de bain, il va casser la baraque, je suis persuadé, il a des jambes sublimes et une démarche très très élégante. Non, moi je crois en lui, en plus il a une tête à diadème.
Ah oui, on ne se refait pas, Geneviève de Fontenay restera toujours Geneviève de Fontenay. Du côté de chez Mélenchon, ça n'a pas dû être facile de ne pas se mélanger entre les deux villes. Camarades lyonnais, je sais que vous êtes favorables à une reprise du trafic fluvial sur la Seine. Je sais que vous êtes très fiers de votre tour Eiffel. Vous n'en pouvez plus de cette politique favorable à la bourgeoisie lyonnaise menée par Anne Hidalgo. Mais pensons plus large, camarades, pensons national. Quant à Marine Le Pen, revenons sur quelques-unes de ses propositions principales.
Immigré, danger.
Pas bête, pas bête. Maintenant, est-ce que Geneviève de Fontenay accroche toujours aux valeurs d'Emmanuel Macron?
Oh, c'est vraiment un bon petit gars, hein. Et puis, vouloir devenir président, ça au moins, c'est de l'ambition. Ça nous change de toutes ces bécasses qui veulent devenir ambassadrices pour crème dépilatoire ou toiletteuses pour chiens handicapés. Hein. Non, il est brillant Emmanuel, hein. J'ai hâte d'assister au défilé en robe du soir. Oh, je suis sûr, il va être splendide.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a vraiment géré la haute technologie? Pas sûr. Il a très bien pu se retrouver téléporté à un endroit non souhaité. Ça arrive, hein, on ne maîtrise pas à 100% la technique de l'hologramme.
C'était cool ça.
Oui Spock, qu'est-ce qui se passe?
Captain Kirk, on a une conférence holographique dans la salle des machines.
Merci monsieur Spock. Y'en a marre de ceux qui nous gouvernent. Y'en a marre de les voir depuis 5 ans bafouer les valeurs de la gauche. C'est qui ce type?
Je sais pas Captain, d'après mes calculs c'est un homme qui vient de 2017.
Mon dieu, il est d'une laideur. On peut le détruire à distance.
Négatif, il appartient pas à notre époque. Son message est perdu dans l'hyperespace.
Ah, nom de dieu, on maîtrise rien. Ah bon, c'est pour rien, on n'est toujours pas maître des progrès de la science. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen, elle balance du concret. Elle parle à son peuple d'extrême droite. Et croyez-moi, elle sait toujours trouver les mots. Et pendant ce temps-là, à Paris, François Fillon reprend du poil de la bête. Il écoute de la musique pour se remonter le moral.
Avec le temps... Avec le temps va, tout s'en va.
Grosse patate, François, à demain.
La bande originale, lundi, sur France Inter.
Merci Daniel Morin. Et puis j'imagine que la conférence de presse de François Fillon va t'inspirer. Et ça sera cet après-midi, tu seras à l'écoute.
En direct du Père Lachaise.
Chez Roquet Clair. Quelle est votre manière, Marc Vera, de vous dresser contre l'industrie alimentaire, la mondialisation? Ce sont des combats où vous êtes forcément, perdant vu la taille, la force et vu le poids de l'argent, des moyens.
Surtout qu'à vol d'oiseau, ils ne sont pas très loin de chez nous maintenant, les destructeurs de la planète. Puisque Bayer vient de racheter Monsanto, vous êtes au courant. À vol d'oiseau, depuis chez nous, c'est côté, c'est fin fond de la Suisse.
Et par l'autoroute?
Ça deux pas.
C'est plus long.
Et le problème, c'est que, ce sont des destructeurs. Je veux dire, et comment se fait-il que on n'ait pas un intérêt, un nouveau parti politique universel sur l'environnement? Qu'il soit ni de droite ni de gauche.
Ce que j'allais dire, est-ce qu'il faut, pas de couleur politique, pas un parti, il faut que ce soit une évidence pour tout le monde.
Oui, il faut que ça soit une évidence pour tout le monde. Et moi, ce que je regrette, par exemple, c'est que, écoutez, je n'ai jamais entendu parler quelqu'un à droite d'écologie, de nourriture, de nature, jamais.
Et à gauche, c'est quelqu'un qui vous inspire?
Oui, à gauche, bien sûr, qui nous inspire.
Qui vous inspire à gauche en ce moment dans la course à la présidentielle? Qui vous inspire, Marc Vera?
Moi, j'aime... Vous savez, j'aime bien... je ne me prononce pas pour la politique, puisque mon grand-père était communiste anticlérical et mon papa était radical de gauche. Vous voyez à peu près où je me trouve.
D'accord.
Non, mais,
du côté des hologrammes?
Moi, oui, mais en tous les cas, il y a eu deux, trois réflexions qui ont été faites. Dans une ou deux de Macron sur l'écologie qui m'intéresse personnellement, au moins ils vont le prendre en compte et je pense que ça sera c'est vraiment l'avenir de nos enfants qui est en jeu et je crois vraiment que ces gens-là vont le prendre à bras le corps.
À midi 16 sur Inter, Marc Vera est notre invité. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boutet.
Non.
Si, c'est maman.
Oui, Marc Vera, je vous sors de la promo, un petit bol d'air, comme en altitude, d'une certaine façon. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous.
Un peu soupolé, ça, j'ai cru comprendre.
On va y arriver,
Un petit peu soupolé, mais c'est bien, quoi. Soupolé, c'est quelqu'un de sincère. Tu m'emmerdes. Eh ben, c'est quelqu'un qui ment pas, quoi. C'est un cœur charpenté comme les montagnes.
C'est Jacques Weber.
C'est colossal.
C'est Jacques Weber, en effet, qui parle de vous, un peu soupolé et un cœur bien charpenté, un cœur trop gros, vous confirmez?
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que maman me disait toujours, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est vrai qu'on a un peu grande gueule et ça porte pas toujours chance. Mais en tous les cas...
Vous avez appris la diplomatie?
Ouais, en tous les cas j'ai appris la diplomatie. Puis en tous les cas j'ai appris une chose, c'est que... être vraiment bien dans ses bottes. Enfin, c'est pas le cas de certains de nos politiques en ce moment. Celui qui l'a dit, il est mal. Mais être bien dans ses bottes, c'est pas mal aussi. Même lorsqu'on nous fait du mal, nous, vous savez, on a eu une histoire sur du bois coupé, vous vous rappelez. Vous avez vu ça dans les journaux, dans la presse. On a coupé du bois sur notre propriété. Pendant l'audience, on nous a affirmé qu'il n'y avait pas de bostriche. Pour moi, c'était terrible, puisque j'ai fait un burn-out à la suite de ça, parce que je n'aime pas l'injustice. Et vous savez ce qui s'est passé?
Non.
Eh bien, j'ai été accusé d'avoir coupé ces arbres, qui, soi-disant, n'étaient pas malades. Et un mois et demi après, j'ai reçu une lettre de la préfecture en disant « Monsieur, vous êtes propriétaire des parcelles un tel, un tel, vous les coupez sous les 15 jours, sinon vous avez une pénalité de 2 800 € par jour. » Vous trouvez ça normal? Quand vous avez été paysan avec un père... qui faisait attention à tous les arbres bostrichés, qui les coupait sur place, qui les brûlait. Alors malheureusement, j'ai commis une erreur, effectivement. Où la justice a fait son travail, c'est que je n'aurais pas dû déraciner ces sapins.
D'accord.
J'aurais dû les couper, mais pas les déraciner. Et j'ai déraciné les sapins, dont je n'avais pas le droit. Et ça, je suis bien obligé de le reconnaître. Mais simplement, je ne savais pas que le bostriche, il s'arrêtait juste à hauteur de la terre.
Bah, vous savez,
c'est comme le truc nucléaire, vous savez,
Non, mais on va pas rentrer
dans
le nuage qui s'est arrêté aux frontières.
L'accident de Tchernobyl. Je veux juste revenir sur l'expression soupolé, parce que c'est vraiment à la fois votre caractère et...
Et une bonne recette de cuisine que vous allez partager avec nous.
Mais oui, soupolé, l'expression vient justement de la manière dont, dès l'instant où on fait bouillir, on le le lait peut monter très rapidement, redescendre. C'est ça, hein, le parallèle qu'il y a entre c'est l'expression vrai, c'est vrai, et la cuisine.
C'est vrai que, c'est vrai que j'ai un personnage un peu bizarre, un peu. On dit certaines fois mystique, enfin on emploie un peu tous les termes, mais je suis en parfaite ébullition dans les deux sens.
On poursuit avec un autre son pour vous, Marc Véra.
Il s'aime pas ce gars-là. Il s'aime pas assez, Marc. Voilà, et si peut-être j'avais un message à lui transmettre, qu'il prenne soin de lui, qu'il s'occupe de sa santé.
C'est votre ami Pierre Gagnaire, on l'a évoqué tout à l'heure, qui vous prie de prendre soin de votre santé et de vous aimer davantage.
C'est gentil. Ouais, mais s'aimer davantage, est-ce que ça fait pas avancer les choses? Est-ce que c'est pas une remise en cause perpétuelle qui... C'est un peu comme le conditionnement de la cuisine, ça. Lorsque vous êtes trop sûr d'une recette, vous êtes sur la bande descendante, hein.
C'est ce que fait Gagnère, apparemment.
Mais Gagnère, pareil.
Dès qu'il tient une recette, il la retire de sa carte. C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Mais oui, mais moi, pareil. Mais on est deux frères, nous.
Pourquoi vous faites ça?
Ce qu'il vient de dire.
Dès qu'un truc qui marche, il le vient.
Mais ce qu'il vient de dire là, Pierre. C'est lui en fait. C'est son autoportrait qu'il a fait là, parce qu'il est exactement comme ça. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un des plus grands cuisiniers qu'on ait eu. Il a une remise en cause perpétuelle, et lui aussi ferait bien de faire attention à sa santé. Mais vous savez, la santé dans ce métier de cuisinier, on est tous pareils, on est pris. On a dit tout à l'heure, nous sommes des chefs d'entreprise.
Est-ce que la santé par les plantes fonctionne aussi? Est-ce que vous ne vous soignez que par les plantes, que par l'homéopathie?
Non, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que mes enfants, par exemple, lorsqu'ils nous ont mal à la tête, je leur fais des infusions de Reine des Prés. Dix minutes après, ils ont plus mal à la tête. Hein. Au lieu d'avaler de l'aspirine, chimique, ça marche. Hein. Ouais. Et la Reine des Prés, c'est rien. Il y en a plein les champs. Il y en a partout. Hein. Il y en a partout.
Il y en a plein vos champs.
Quand t'es à Paris et que t'as mal au crâne.
Mais à Paris, vous savez qu'on avait fait une émission avec François Couplan qui avait amusé tout le monde. François Couplan lui a ramené du pain.
Ça a l'air drôle.
C'était inconsommable, mais c'était au mois de Boulogne. Il avait ramené huit sortes de
maladies,
huit sortes de plantes et d'ombilifères du bois de Boulogne.
Et il est tombé enceint.
Et heureusement qu'on n'a pas fait d'infusion.
Et pour finir, je vous fais un cadeau, Marc Véra. Alors un cadeau que vous allez pouvoir annoter et corriger même, c'est le dictionnaire amoureux de la montagne. C'est chez Plomb, c'est signé Frédéric Thiriez. Oh. Voilà, c'est une déclaration d'amour
à la montagne.
Frédéric Thiriez
du football, ouais.
Non, pas lui.
Si, c'est lui.
Ah, si, c'est lui.
C'est lui.
Ah, bon,
oui, c'est lui qui m'a fait un procès.
C'est un alpiniste, c'est un grand sportif.
Thiriez, c'est le monsieur qui avait les moustaches, là.
Oui, c'est ça.
Qui était président de la. Ah, oui.
De la Ligue nationale de football, ouais.
Il est
pendant 4 ans.
Connu pour moi, en tout cas pour être un grand avocat au Conseil d'État, mais bon, voilà,
ah bon,
j'avais pas le.
Ah bon,
en tout cas, voilà, c'est la.
C'est pas le même.
Si, c'est le même.
Il a vraiment présidé la Ligue de football, c'est vrai. Mais ça m'a moins intéressé.
En tant qu'avocat.
Mais si, c'est le Conseil d'État.
Non, mais vous avocat au Conseil d'État.
Ouais,
le livre est bien, c'est le principal, Marc. Il y a un moment, il faut pas chipoter.
En tout cas, c'est une déclaration d'amour aux montagnes, et je me suis dit que c'était forcément fait pour vous.
Écoutez, cet homme, je le soupçonnais quand même au milieu du football, et s'il parle de la montagne, c'est qu'il doit être très bien.
Ah ouais, ben il faut pas, dis donc.
Comme il faut peu, hein.
C'est ça. Ah, la montagne, quand ça vous prend.
Ça vous gagne.
Voici Chris Isaak avec Blue Hotel.
Life don't work out my way. Blue hotel on a lonely highway.
Blue Hotel, c'est Chris Isaac, notre invité Marc Vera. Voici une cascade de questions pour vous, Marc. Des questions courtes avec des réponses courtes. Et on commence par Daniel Moore.
Marc, votre geste beauté du matin.
Geste beauté ?
Oui, votre geste beauté.
Le même que le tien, à mon avis.
C'est vrai ? Beauté, c'est quoi ? Allez, me laver les dents.
Ah bah oui,
pas mal. Ouais, gentil pour les autres aussi.
Nora Mzaoui.
Oui, le plat que vous détestiez quand vous étiez petit.
Ah. Ben justement, c'était un gros problème parce que maman, on invitait souvent des copains. Et vous savez ce qu'elle mettait dedans ? Elle mettait des herbes, des épinards, des quenopodes bonhomme, des choses comme ça. Et tous les gosses, vous savez, quand il y avait du persil, ils mettaient sur le bord de l'assiette.
Ah ouais, j'aime bien
moi,
ça.
Je ramassais...
les gosses n'aiment pas ce qui est vert.
Ouais. Hein, et moi, je ramassais tout ce qui était sur le bord de l'assiette et je le mangeais, alors, oui. Et il n'y a vraiment pas un plat que je n'aime pas.
Ah bon ?
J'aime tous les
Encore
plats.
Encore aujourd'hui.
Tom Bilan. Ouais.
Quand vous voulez vous faire un bon resto, vous allez où, Marc ?
À Paris ?
Ouais.
Partout, ça en est plein, ça en est plein de bons restos. Et moi, j'adore les cuisiniers. Alors, j'ai un problème, c'est que j'adore les cuisiniers, je les respecte. Et ce que je ne supporte pas, c'est que lorsque vous allez dans un cuisinier tout sobre, tout simple, où il fait de la bonne cuisine, où il met son cœur, où il a envie de faire plaisir aux autres, vous dites : Ah, oui, mais moi, je suis pas à votre niveau. Bien sûr que si, monsieur, on a le même cœur.
Leïla,
on fait le même travail. Une odeur qui est associée à l'enfance pour vous.
Ah ben pour moi,
c'est peine, quoi.
Pour moi c'est simple, c'est le plat qui mijotait le plus longtemps sur le fourneau, c'était le potage le soir.
Des excuses à présenter Daniel Morin.
Bien sûr, et on commence par les amis. Désolé pour Patrick Balkany qui compte faire cramer la mairie de Levallois-Perret pour toucher le pactole et qui a découvert, grâce à Marc Vera ou à cause de Marc Vera, que ça ne marchait plus ces arnaques. Ah là là, je compatis mon petit Patrick. Désolé pour François Régis Gondry qui s'est fait appeler Régis ou Régis François ou Gondry Régeoise par Marc Vera. Oh, en même temps, voilà, ça nous choque plus. On est habitué aux prénoms chelous autour de cette table de toute façon.
C'est Gondry.
Et désolé pour tout. Tu vois, ça continue. Désolé pour tous les auditeurs et moi-même qui attendions la recette de la soupe au lait qui n'est jamais venue. Tant pis, je me ferai une soupe au conservateur.
Merci Marc Vera. On croise les doigts pour que tout se passe bien à la Maison des Bois. Et j'encourage tout le monde à se procurer cette encyclopédie qui est passionnante et où on voit justement l'évolution de la cuisine en gardant l'essentiel, c'est-à-dire nos racines, mais en profitant de ce que la nature nous apporte et en évoluant.
Et puis surtout, ce qui est formidable, c'est qu'on fait le plus beau métier du monde, vous rendez compte, c'est un métier de convivialité, c'est un métier de réunion, de partage, d'échange, et puis c'est un métier où on doit transmettre cette passion qu'on a pour la nourriture, des choses toutes simples, à nos enfants. Pensons à nos gamins
demain,
et nos petits-enfants.
Demain, nous recevrons Yann Moix, et maintenant c'est Philippe Bertrand qui va partir sur justement les routes de campagne.
Ah oui, toujours.
Bah oui.
Et puis il y a toujours un plaisir. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde.
Salut Philippe.
Toujours plaisir d'écouter Marc.
Il y a quoi cette semaine dans les carnets de campagne ?
Il y a quoi ? Il y a de Lyon.
Ouais.
Tiens, il y a du circuit court, ça va plaire à Marc.
J'ai l'impression que vous êtes en train de découvrir votre émission.
Ouais. D'ailleurs, je ne l'écoute plus.
Vous avez tort, elle est bonne.
Ouais. En tout cas, j'ai bu du petit lait, même s'il est soupe au lait, en l'écoutant, un petit peu comme le veau sous la mer.
Oh. Wow.
Je vais vous faire le veau, tiens.
Pas mal.
Pas mal.
Ah, pas mal. Pas mal.
Ouais. Ça, c'est du vrai, c'est de l'authentique.
Et le Vera, vous savez le faire ?
Non. Non, ça, je sais pas.
Bonne journée.
Salut les amis.
Ciao. Salut Philippe.